Bon, depuis la semaine dernière, là, tous les ministres du gouvernement de M. Trudeau, je pense à M. Leblanc, je pense à M. Garneau, ils nous disent que concernant le dossier des voyages, là, les mesures, on va les connaître au début de la semaine. Donc, c'est quoi, aujourd'hui ou demain?
Conseil des ministres aujourd'hui à 16h, Paul. Okay. J'ai l'impression que c'est là que ça va se décider. Évidemment, la période des questions va être l'occasion aujourd'hui, parce que le Parlement reprend, ça va être l'occasion pour les oppositions de dire à Trudeau, « Hey, branche-toi, mon ami, là. » Et là, donc, il s'en va en Conseil des ministres à 16h. La difficulté pour Justin Trudeau, Paul, c'est qu'il a créé ce qui s'appelle le comité COVID. Ils sont une quinzaine de ministres là-dessus. Puis encore hier soir, moi, j'avais des informations en provenance d'Ottawa à l'effet que le comité COVID n'a pas été capable. Je t'en avais parlé vendredi matin, mais j'ai reconfirmé l'information. Le comité COVID n'a pas été capable d'en arriver à un consensus, à une recommandation pour Justin Trudeau. Donc, j'ai l'impression que c'est le Conseil des ministres de 16h qui va trancher. Mais tu sais, ils n'ont pas été capables de trancher à une quinzaine de ministres, comme le comité COVID. Là, ça ne sera pas plus facile de trancher à tout près de 40 ministres autour de la table. Ben, j'ai bien l'impression que c'est Justin Trudeau qui va devoir finalement prendre la décision. Tu sais, quand on dit des fois le pouvoir s'exerce en solitaire, je pense que là, ça va être un beau cas où c'est Trudeau, ultimement, qui va devoir trancher. Et puis là, ben. Qu'est-ce que tu veux? Les options dont je t'ai parlé vendredi matin tiennent toujours. C'est-à-dire, il y a soit l'option d'imposer une quarantaine à l'hôtel pour les voyageurs de retour, mais là, il faut que ça se fasse avec l'étroite collaboration des provinces. Fait qu'il va falloir négocier des arrangements, en particulier pour le Québec et l'Ontario, qui ont leur propre corps de police provinciaux. L'autre option, c'est l'interdiction des vols, non essentiels. Mais qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Puis surtout, si tu interdis les vols, est-ce que tu es obligé de voter une loi pour te donner les pouvoirs de le faire? Ou est-ce que tu as recours à la loi sur les...
Mais on a déjà interdit les vols.
Oui, c'est ça. Exactement.
Mais on n'a pas eu besoin de la loi des mesures d'urgence. Là.
Non, tout à fait. Tout à fait. Et d'ailleurs, ça, c'est un des arguments qui a été présenté autour de la table. Mais là, Paul, c'est parce que si tu décides d'interdire les vols pendant, je ne sais pas, moi, un mois et demi, je ne sais trop... Là, regarde, il y a un enjeu légal. Je te le dis, là, ça me revient constamment. Et le recours à la loi sur les mesures d'urgence n'est vraiment pas l'option favorite là autour de la table. C'est clair que là, s'ils pouvaient l'éviter, ils vont tout faire pour l'éviter.
Moi, je pense que ça va finir par la quarantaine.
Dans les hôtels? Oui, moi aussi, je pense. Je pense que
parce
c'est
que,
ça qui
d'abord,
va
un, les vols essentiels, pas essentiels, comme tu dis, c'est assez compliqué. Là, tu sais, un vol pour New York, est-ce que tu... Puis quelqu'un qui, une fois à New York, décide qu'il prend une autre direction. Bon. Tu peux toujours geler les vols nolisés vers certaines destinations. Oui,
mais là, tu rentres dans l'arbitraire.
Ben, c'est ça. Bon. Mais là, Israël vient d'empêcher les vols pour une période d'une semaine.
Ben oui. Écoute, Israël, la semaine passée, on célébrait la formidable réussite de leur campagne de vaccination. Et là, le feu est pris là-bas. Pour deux raisons. Les variants, extrêmement contagieux, extrêmement mortels, qui ont fait leur entrée sur le territoire d'Israël. Et les communautés ultra-orthodoxes, Paul. Ils représentent seulement 10 % de la population, mais ils représentent plus de 30 % des cas. Et c'est fascinant, là, ce qui s'est passé à Montréal en fin de semaine, là, ça se produit en Israël depuis plusieurs semaines, sinon plusieurs mois.
Ah oui, c'est un affrontement entre les orthodoxes et la police. Tout
et
le
voilà,
temps.
Et voilà. Et les orthodoxes là-bas aussi, les ultra-orthodoxes, traitent les policiers israéliens qui interviennent dans les synagogues, par exemple, de nazis. Un peu comme ça s'est fait ici chez nous. Je trouvais ça... Tu sais, la comparaison, des fois, on a l'impression que c'est pire chez nous, Paul. On se rend compte que c'est la même réalité ailleurs. D'ailleurs, il va falloir que les consignes du couvre-feu soient peut-être clarifiées là-dessus, là, parce que là, il y a eu un va-et-vient là, sur ce qui était permis. Puis
c'est parce qu'on a compris au début, c'était la règle du 10. Ouais, avant, c'était 25, là, dans un lieu de culte. Là, ils ont ramené ça à 10. Sauf que hier soir, le médecin qui fait le lien entre la santé publique et les communautés a envoyé un courriel en disant... C'est 10 par pièce, il y a une entrée indépendante, puis qu'une n'est pas à côté de l'autre, ce qui fait que dans certains endroits, il y a 4 étages, donc tu pourrais avoir 4 groupes de 10.
Exact.
Qui ferait 40 au total.
Exact, exact.
Mais...
Non, c'est pas... Mais mets-toi à la place des policiers qui doivent faire appliquer ça par la suite. Alors, que va faire Justin Trudeau? Revenons-en donc à cette décision. À voir, est-ce qu'il va nous annoncer ça demain lors de son point de presse 11h30? Ça se peut, ça se peut. À Québec, j'ai fait des vérifications là ce matin. Ils attendent des nouvelles d'Ottawa aujourd'hui, eux autres. Là, j'ai dit, bon, mais... Alors, ils savent pas. Ils savent pas encore ce que Justin Trudeau va décider. Ils attendent. Parce que, je le répète, là, ça pourrait avoir un impact, notamment sur nos forces policières. Et pendant ce temps-là, ben, Québec continue de demander des pouvoirs aussi supplémentaires pour nos policiers, mm-hmm. pour pouvoir faire des contrôles aléatoires sans prévenir, puis pour pouvoir également donner des constats d'infraction plus facilement. Donc, à suivre pour ce qui est d'Ottawa.
Bon, on a une date en tête, le 8 février. Ben oui. En principe, c'est la fin du couvre-feu, mais dans les faits, on pense tout le monde là, que ça va être prolongé.
Ben, en tout cas, une chose est sûre, Paul, moi, je vois pas comment ils pourraient lever le couvre-feu dans une région comme Montréal, où on est encore autour de 600 cas en moyenne. Là. Laval, ça se maintient autour de 125 cas. La Montérégie est en progression. On est passé, grosso modo, de 200 à plus de 300 cas dans les derniers jours. Laurentie-de-la-Naudière, à peu près une moyenne de 100 cas là-bas aussi. Alors, moi, je vois mal là, comment... Avec des chiffres comme ça, Paul, là, s'il fallait qu'il décide aujourd'hui s'il prolonge le couvre-feu ou pas, là, il n'y aurait pas le choix, à mon avis là, de le prolonger pour le 514 puis le 450. Mais Paul, regarde, en Gaspésie et aux îles de la Madeleine, au cours de la dernière semaine, ils ont eu 6 jours avec 0 cas et 1 jour avec 2 cas. Bas-Saint-Laurent, à peu près 4 cas par jour en moyenne depuis une semaine. L'Abitibi-Témiscamingue, 5 cas par jour. Saguenay-Lac-Saint-Jean, autour d'une quinzaine. Paul, est-ce que tu imposes un couvre-feu, un prolongement du couvre-feu mur à mur à travers le Québec, alors que tu es des régions qui ont presque plus de cas? Justin Trudeau est en réflexion de son côté. François Legault réfléchit activement de son côté également avec son équipe.
Question, par exemple, c'est vrai que la Gaspésie puis les îles l'hiver, là, on s'entend que peu de touristes seraient tentés d'y aller. Là. Mais mettons le Bas-Saint-Laurent, mais que la semaine de relâche arrive. Toi.
C'est ça.
Et même des régions éloignées, là, les gens vont être tentés de se déplacer, c'est sûr.
Absolument. Puis avec le maudit variant. T'as vu ce qui se passe à Barrie, là, on est à une 60aine de kilomètres de Toronto. Le variant britannique est entré dans un foyer de longue durée là-bas. Tous les résidents, sauf 2, ont été infectés. 41 sont morts. Vroom! Un autre foyer de longue durée pourrait également avoir été frappé. Là, ils se demandent là, ce qui se passe à Barrie.
Mais tu penses pas, toi, que... Puis j'ai beaucoup d'auditeurs, d'auditrices qui vont dans ce sens-là, là, qui sont des commerçants. Si c'est pas pour ouvrir le 8, là, ben dites-les donc tout de suite. C'est-à-dire que il y a des gens là, qui ont besoin de savoir. Tu sais, toujours être dans l'attente d'une décision. Tu sais, tu regardes les chiffres. La semaine passée, M. Legault a dit, ben on en a encore pour quelques semaines. Ben dites-le au monde tout de suite. Ça sera pas le 8 février.
Moi, sais-tu quoi? Moi, j'ai l'impression que cette semaine, il va nous donner un signal.
Ben plus qu'un signal, annonce quelque chose de clair.
Ouais, mais tu sais, Paul, la difficulté, là, c'est la suivante. Tu peux pas... Moi, je vais dire une affaire. Tu ne peux pas te permettre, à mon avis, là, de dire telle et telle et telle région, le couvre-feu ne s'applique plus à vous, puis mettons que le variant rentre dans cette région-là, remettre le couvre-feu 2-3 semaines plus tard. Moi, je préférerais, là, puis ce n'est que mon opinion, je préférerais que le gouvernement fasse durer le couvre-feu plus longtemps pour être bien sûr que la situation est sous contrôle, t'sais, pour être certain que le variant n'est pas rentré, et après une certaine période de temps, peut-être retourner certaines régions en code orange.
Mais annonce-le. Tu sais que Montréal, le 8 février, il n'y aura rien de changé.
Bon, alors, il y a 2 options sur la table. C'est ce que j'entends.
OK.
OK? La première, c'est qu'est-ce qu'on fait avec le couvre-feu? Est-ce qu'on le garde mur à mur ou pas? Si on le garde pas mur à mur, on fait quoi avec les régions qu'on retire du couvre-feu? Puis là, ça pourrait être le retour du code de couleur. L'autre option... c'est de dire on garde le couvre-feu mur à mur, mais on rouvre certaines activités économiques. Par exemple, on permet la réouverture des commerces. Donc, tu gardes le couvre-feu, mais tu assouplis tes mesures de restriction. Tu donnes plus d'oxygène, par exemple, à tes commerçants. C'est la 2e option. C'est ce que j'entends.
OK.
Hein? Non, mais c'est... Mais toi, tu souhaites avoir un signal?
Ben, moi, pas moi, là, mais...
Non, mais je...
Il y a bien des gens, là, qui ont un petit commerce, puis ils se disent, coudon, moi, je me prépare-tu pour ouvrir le 8 ou pas, là? On est rendu le 25, là.
Mais il reste 14 jours.
Ouais,
mais... Tu comprends? Fait que... Je comprends le commerçant, mais le gouvernement n'a pas de marge de manœuvre, Paul. Tu peux pas, je te le dis, là. À mon avis, tu peux pas dire aux gens, par exemple, du Saguenay-Saint-Jean, du Bas-Saint-Laurent, de l'Abitibi, là, vous allez être correct, là, d'après moi, là, on va vous sortir du couvre-feu. Si la semaine prochaine, le variant se manifeste dans l'une de ces régions-là, tu es obligé de rétro-pédaler. Oh, c'est le bordel. Dans ce temps-là, le monde, tu sais, s'était fait à l'idée, ils sont déçus. Il peut pas y avoir de yo-yo avec le couvre-feu. Tu t'es sort, mais si t'es sort, à mon avis, tu peux plus y rentrer. Puis c'est pour ça que l'idée d'assouplir, garder le couvre-feu, puis assouplir sur certaines activités, donner plus d'oxygène aux commerçants, ça pourrait être un compromis. Peut-être.
On verra. OK.
Je soumets ça à ta réflexion et à la réflexion de nos auditeurs.
Merci, monsieur. Bonne journée. 7h12.